VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. République centrafricaine, la Russie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une exemption à l'embargo sur les armes imposées à la RCA. Et ce, pour équiper deux unités de l'armée centrafricaine en cours de formation. Selon des sources diplomatiques, l'initiative russe apparaît conforme à la volonté de l'ONU de voir se renforcer une armée faible, dépourvue de formation et d'équipement. Mais la requête a suscité des inquiétudes de la France sur les conditions de stockage des armes et munitions fournies. Au Cameroun, un élément d'un groupe d'autodéfense a péri mardi soir dans un attentat suicide dans l'extrême nord du pays, où les attaques attribuées aux djihadistes nigérians de Boko Haram sont fréquentes. L'explosion provoquée par un kamikaze a tué dans la soirée un membre d'un comité de vigilance à Matakaya dans la zone d'Amchide, à la frontière du Nigeria, a déclaré sous couvert d'anonymat un responsable d'un groupe d'autodéfense de cette ville. Le kamikaze a également trouvé la mort. Deux civils ont péri le même jour dans un autre attentat suicide contre une mosquée de Kerawa, également dans le nord du pays. Depuis 2014, date à laquelle le Cameroun a commencé à lutter contre Boko Haram, le groupe djihadiste a tué 2000 civils et militaires et enlevé un millier de personnes dans l'extrême nord du pays. Cri d'alarme de l'Organisation internationale des migrations concernant un éventuel danger de catastrophe humanitaire en République démocratique du Congo. L'OIM estime que les violences à répétition dans l'est de la RDC, plus la crise au Kasaï et dans la région du Tanganyika, qui provoque un grand nombre de déplacés internes et de réfugiés, constituent assez d'ingrédients pour que le pays devienne une plus forte urgence en 2018. Solange Nyamulisa a joint Jean-Philippe Chauzy, chef de mission de l'OIM en RDC.
La situation humanitaire en 2017 est déjà extrêmement préoccupante puisqu'on a plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur même du pays dans les provinces qui ont été déclarées au niveau d'urgence 3 par les Nations Unies, à savoir le Tanganyika, le Grand Kasaï, le Sud Kivu. Mais on a aussi une situation extrêmement préoccupante au Nord Kivu en raison de l'insécurité persistante, de nouveaux déplacements avec par exemple 6 sites spontanés qui se sont créés au cours des dernières semaines avec 20 000 personnes qui aujourd'hui ne reçoivent aucune assistance. Donc malheureusement, nous sommes obligés de nous préparer pour 2018, une année qui pourrait être encore plus difficile, avec plus d'insécurité, en raison notamment de la situation politique qui demeure bloquée, avec des groupes armés qui se multiplient, qui se fragmentent, qui terrorisent la population.
Mais depuis 1996, il y a toujours eu des déplacés internes en RDC. Est-ce que c'est seulement la question des déplacés internes ou il y a d'autres facteurs?
On a, si vous voulez, une extension de l'insécurité, du conflit et un nombre de plus en plus important de personnes vulnérables qui sont dans des zones qui aujourd'hui sont extrêmement difficiles d'accès. Donc c'est pas parce qu'on a eu de par le passé une insécurité qui a entraîné des déplacements en RDC qu'on doit ignorer aujourd'hui le fait que ces déplacements se sont accélérés, que les besoins ont augmenté de manière considérable, phénoménale, puisque le plan de réponse humanitaire pour 2018 double, c'est-à-dire que de quelques 800 millions de dollars cette année qui n'ont malheureusement pas été financés à hauteur, eh bien on passe pour l'an prochain à peu près 1,5 milliard. Les besoins sont énormes et malheureusement on a l'impression que la RDC n'est pas vraiment sur le radar de la communauté internationale, d'où cet appel à financement à hauteur de 75 millions de dollars pour 2018 que l'OIM vient de lancer aujourd'hui.
Et que faut-il faire pour éviter cette catastrophe humanitaire ?
La protection des Congolais incombe au gouvernement, la protection des personnes déplacées incombe donc à l'État souverain du Congo. Et il faudrait aussi que les bailleurs puissent prendre la mesure de l'urgence en RDC et malheureusement de la catastrophe humanitaire qui est en train de se profiler, c'est rien à faire. Il faudrait aussi que l'on puisse obtenir accès à des zones qui sont aujourd'hui difficiles en raison notamment de cette insécurité et des groupes armés illégaux qui opèrent dans des grandes parties non seulement de l'Est de la RDC mais également au Kasaï et également que l'on puisse obtenir des garanties de la part des forces armées congolaises qu'elles puissent laisser les humanitaires faire leur travail en toute neutralité, en toute impartialité pour qu'on puisse apporter cette aide qui est tant attendue aujourd'hui de la part des déplacés en RDC.
Jean-Philippe Chauzy, chef de mission de l'OIM en République démocratique du Congo.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes en Afrique. La France réunit ce mercredi une vingtaine de dirigeants pour accélérer la mise en œuvre de la nouvelle force conjointe du G5 Sahel, en raison de l'urgence sécuritaire dans la zone sahélienne. Le président français Emmanuel Macron a convié au château de la Selle Saint-Cloud près de Paris ses homologues du G5 Sahel, à savoir le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, le Nigérien Mahamadou Issoufou, le Burkinabé Rochmor Christian Kabore, le Tchadien Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed Oud Abdelaziz. À leur côté, des partenaires de la force commune, notamment l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs de gouvernement italiens Paolo Gentiloni et belge Charles Michel. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis participent également à la réunion. L'objectif est d'accroître la mobilisation au profit du G5 Sahel sur les plans militaires, politiques et financiers. Au Libéria, le second tour du scrutin présidentiel est fixé au 26 décembre. Jérôme Corcoya, président de la commission électorale, l'a annoncé mardi lors d'une conférence de presse. Blanche Sanou.
La Commission électorale nationale du Libéria a fixé au 26 décembre le second tour du scrutin présidentiel entre l'ex-star du foot George Weah et le vice-président sortant Joseph Boaké. Initialement prévu le 7 novembre, ce second tour a été reporté par la Cour suprême pour permettre de statuer sur la plainte du candidat Charles Bromskin, arrivé troisième. La commission électorale a définitivement rejeté le 24 novembre les recours Bromskin et Boaké, mais la haute cour a ordonné une révision des listes électorales avant toute fixation de la date pour le second tour. Donc le 26 décembre, on saura peut-être qui sera le successeur d'Hélène Johnson Sirleaf, première femme élue à la tête d'un État africain. Le mandat présidentiel débute le troisième lundi ouvrable de l'année suivant l'élection, ce qui laisse peu de temps pour respecter les délais constitutionnels.
En Côte d'Ivoire, les professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sont en grève illimitée depuis mardi pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Plus de détails avec Solange Niamoulissa.
Le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, Kwasi Zamina Johnson, a déclaré qu'ils vont rester en grève jusqu'à ce que le gouvernement paye les heures supplémentaires effectuées durant l'année 2015-2016. L'État devait les payer avant juin 2017. Selon le syndicat des étudiants, l'université était hier totalement à l'arrêt. Selon les chiffres de l'administration, les heures supplémentaires non payées représentent un total de 8 073 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire fait face à une large grogne sociale depuis le début de l'année. Les fonctionnaires de différents secteurs ont mené plusieurs mouvements de grève. Le gouvernement et les syndicats ont signé en août une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire pour environ 130 000 fonctionnaires.
Actualité aux États-Unis maintenant, le candidat démocrate Doug Jones a remporté l'élection organisée mardi pour un poste de sénateur dans l'Alabama, infligeant indirectement une défaite au président Donald Trump dans cet État conservateur du sud du pays. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le candidat démocrate au Sénat dans l'État de l'Alabama a réussi l'exploit de se faire élire mardi dans ce bastion conservateur. Doug Jones, un ancien procureur fédéral de 63 ans, a battu Roy Moore, dont la campagne a été minée par des accusations de comportement sexuel déplacé à l'égard d'adolescentes lorsqu'il était plus jeune. Acclamé par ses partisans, Doug Jones a salué une victoire de l'État de droit et de la décence. Les républicains vont conserver le contrôle des deux chambres du Congrès, mais le résultat de cette élection dans l'Alabama va réduire leur majorité au Sénat à seulement 51 voix contre 49 aux démocrates, ce qui pourrait compliquer davantage les efforts de Donald Trump pour faire avancer ses projets. Le président américain avait publiquement apporté son soutien à Roy Moore, malgré les accusations portées contre le candidat républicain. Le réveil est très personnel pour le président des États-Unis qui avait appelé ses partisans à la loyauté au nom de la poursuite de son programme de réforme. Jamais depuis 1992, un démocrate n'avait été élu sénateur dans cet État du Sud. À noter que le candidat républicain Roy Moore n'a pas reconnu officiellement sa défaite et a dit compter sur un recompte des voix.
Pour terminer, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté aujourd'hui la communauté internationale à reconnaître Jérusalem-Est comme la capitale de la Palestine. Un appel lancé par le président Erdogan à l'ouverture d'un sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul. Lors de cette réunion consacrée à la reconnaissance par le président américain Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, M. Erdogan a qualifié l'État hébreu d'État d'occupation. Pour sa part, le président palestinien Mahmoud Abbas Abbas a déclaré qu'il n'y aurait ni paix ni stabilité si Jérusalem n'est pas la capitale de l'État de la Palestine.
Info sur VOA Afrique.